Ernest Choquette, pas encore lui. Ah, le rude métier, énervant et ennuyeux, que celui qui vous impose à brûle pour point, à l'heure du sommeil à bras repliés, dans l'engourdissement mourant du rêve, vite debout, chanter en ondulation. Triste, dans les corridors et dans les chambres, par la sonnette de nuit. Oui, vous comprenez ça bien, les sauvages. Alors vite levé, une bretelle branlante, les pantoufles moitié mises dans la crainte d'un second coup de sonnette qui veillerait pompane, je cours à la porte. C'est bien ça, en effet, les sauvages. Allons, quelle course, quelle chasse, là-bas, loin dans la nuit noire, sombre, dans le clapotement monotone des flaques de boue, sous la pluie crépitante, sur la toile caoutchoutée de la voiture, il va falloir entreprendre. Oh, ma trousse, rapidement examinée pour voir s'il ne manque rien. Mes instruments qui épouvantent tous ces damnés sauvages, le feu droit abattu, plongé dans mon immense rue de vie. Allons, en route. Ça nous vient probablement des premières années de la colonie, cette légende, si vive et si charmante à la fois, destinée à traverser les siècles maintenant, et qui, sous ses apparences de vraisemblance, apporte si bien aux jeunes têtes l'explication des choses si mystérieuses. Oui, c'est pendant ces sauvages imaginaires que mon rôle de médecin nous pousse. Sauvage, souvent plus terrible que les indigènes des siècles passés, puis parfois, pire parfois, que les Iroquois. Et Kaka, tiraillé par les ornières et projeté par les ressorts en fonte trempée, qui nous enfonce dans les chairs, les tarots du siège de la voiture, après une course du diable dans l'horreur de la nuit, horreur enflée encore, dans les grandes feuilles trempées qui, subitement, dans la rapidité de la marche, nous glissaient dans le cou, comme des caresses de fantômes. L'on me déposa devant une maisonnette assez gentille d'apparence, dans la ligne de lumière qui filtrait à travers les volets, mal ajustés, et qui la coupait comme en deux. J'y suis resté 24 heures dans cette jolie maisonnette, pendant 24 heures, lorgnant les coins du bois, pour voir si les sauvages n'apparaîtraient point, relisant et retournant 10 fois les journaux de la veille, j'ai connu mieux que jamais les ennuis de l'attente. Pourtant, j'ai entrevu tout à côté de la véritable vie bucolique, cette vie des champs calme et heureuse, sans heurts, sans secousses même, qui me représenta en un jour l'empreinte du vrai bonheur. Oh, le superbe tableau, gentiment offert à mes yeux par le va-et-vient incessant des travailleurs distribués ça et là dans les prairies, au milieu des meules de foin, et quelle odeur incomparable de foin coupé, la bise répandait partout comme une essence de patchouli. Et quel charme dans la gaieté rieuse des hommes, des femmes, des garçons, des enfants, tous armés de faux, de fourches, blaguant quand même sous le grand soleil brillant, subitement apparu le matin. De loin, je pouvais les suivre des yeux, et me semblait les entendre geindre sous les fourchers immenses, jetés gaillardement et battant en broussailles sur les bords des chariots. Au crépuscule, dans le cadre lointain, dominé par des forêts sombres, tous les groupes champêtres se dorèrent et s'empourprèrent dans les rayons mourants du soleil. Je m'attendais à chaque instant à les voir danser comme à l'opéra, tant le spectacle prenait les apparences d'une dévoration théâtrale. J'ai une copie des le fameux tableau de Millet. Elle ne rendait seulement pas la moitié de la majestueuse tranquillité et de la beauté sereine de ce crépuscule auquel il ne manquait que l'Angélus. Et, tard dans la soirée, quand l'écho s'accentait de plus en plus par la brumante, il m'arrivait encore de très loin le bruit mécanique des faucheuses et les commandements du diable des hardis travailleurs. N'est-ce pas? Ce n'était pas la première fois qu'il m'était donné de faire le tableau inoublié de mes jeunes années, passée comme celle de ces garnements de tout à l'heure, à manier un râteau derrière les chariots à l'époque des vacances, à gambader follement au-dessus des meules de foin. Mais comme ça m'a pris au cœur ce jour-là, me sentir déjà si loin, ce bon vieux temps, comme il m'a été difficile de m'arracher à ces souvenirs qui, l'un après l'autre, me laissent souffler sur les charbons ardents de mon cœur. Non, le bonheur n'est pas de ce monde. L'homme sans cesse tiraillé par des désirs jamais satisfaits, n'atteint même que rarement une satisfaction passagère. Car la vie s'est oscillée sans cesse entre ces deux rêves. Je l'ai bien compris ce soir-là, au retour de mon campement prolongé parmi les aborigènes. J'étais en route, assis à côté du brave agriculteur qui, avec ses voisins, m'avait tout le jour donné une idée parfaite du bonheur bucolique, heureusement chanté par Virgile. Et pendant que j'enviais presque son indépendance et sa liberté, me plaignant moi-même des ennuis et des misères de ma profession, j'entendis tout à coup qu'il me disait, avec un accent de touchante et sympathique sérénité, « Oh, vous avez bien de la chance, vous, de gagner de l'argent si aisément et de vivre aussi gaiement. » Et je sentis m'en aller en rêve, ce bonheur entrevu. Non, ce n'était pas encore lui.